Soirée live. Lundi au vendredi, 6h.
Radio X.
Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X Files. Avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh!
Radio X.
Oui, ne vous pincez pas. Hein? Officiellement de retour en direct du 1134 Grande Allée Ouest de Choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans cette édition du 29 mars des Radio X-Files. En ce vendredi saint, vous comprendrez que nous ne pêcherons point et que nous allons honorer la thématique. Et le court extrait suivant lance la chronique de ce soir.
Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, ainsi que Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait.
Voici ton fils.
Il dit aux disciples,
voilà ta mère.
Et dès cet instant, le disciple la prit et l'emmena vivre chez lui. Ainsi, à présent, Jésus savait que tout avait été accompli.
Tout est accompli.
Puis il baissa la tête et rendit l'âme.
Je te souhaite un bon retour, mon cher Christian.
Un bon retour à toi. As-tu aimé... comment s'est passé ton séjour au pays des Nippons?
Oh, ça a super bien été et je n'ai pas vu Raël, malheureusement. Ah, bon. Je ne suis pas allée assez loin dans les montagnes à Okinawa pour le trouver. C'est à voir. Pour ceux qui n'ont jamais visité de pays d'Asie, on a l'impression d'aller dans un autre monde. Le côté de respect de tradition, aussi la culture, l'omniprésence de bâtiments historiques partout est impressionnant. Puis en même temps, dans des endroits où la technologie est partout. Hein? Fait que j'ai adoré. C'est un beau coup de cœur. J'avais pas d'attente et je reviens charmée, vraiment.
As-tu été au Mont Fuji?
J'ai eu la malchance de pas le voir. Okay. Oui, j'étais en excursion pour pas l'escalader, évidemment, là, mais de...
Tu sais qu'au côté, il y a une forêt où les gens qui veulent se suicider, hein? C'est comme un rendez-vous. Là. C'est une espèce de forêt maudite. Là.
Ouais.
J'y suis
Vous êtes allé, oh mon Dieu!
Oui, c'était. Mais effectivement, c'est un lieu qui est assez étonnant, le Japon, et surtout les grandes capitales, cette omniprésence, comme tu dis, de l'ancien et du nouveau, là.
Mon prix de consolation, j'ai pas vu le Mont Fuji, je suis pas allé dans la forêt des suicides non plus, mais j'ai été à Nagasaki, par exemple, puis ça, c'était à voir pour l'histoire de la bombe atomique et de voir les dommages en personne, là. Oui, c'était quelque chose.
J'ai pas vu Nagasaki. Je suis allé à Hiroshima, mais c'est ça, Nagasaki aussi, ils ont l'endroit où la bombe a explosé, ils ont gardé un quadrilatère avec les vestiges, tout ça. C'est quand même très prenant quand on voit ça, la destruction de cet événement-là. C'est assez troublant, tu sais.
En effet.
Bon, c'était un autre temps, une autre époque, et il faut se remettre dans le contexte. Hein, c'est toujours, puis je l'ai dit souvent, c'est un tour un peu difficile. Nous, aujourd'hui, comme en 2024, de jeter un regard sur le passé et d'essayer toujours... C'est trop facile de condamner les gens de ces époques. Hein. C'est pourquoi, c'est quand tu vois, par exemple, des gens qui vont renverser une statue d'un premier ministre ou d'un ancien président, parce qu'ils disent « Ah ouais, mais tu sais, ce président-là, il y avait des esclaves noirs. » Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, en 2024, tout ça serait... C'est inacceptable. Mais est-ce que George Washington, le fait qu'il y ait eu des esclaves, est-ce que... dans son temps, tu comprends? Il faut remettre dans la pensée du temps, de l'époque. Tu sais, c'est très difficile. Qui sommes-nous pour juger les gens de ces temps-là? Puis en 1945, après l'Holocauste nazi, le Japon, il y avait des problèmes. Les Américains avaient des problèmes avec le Japon. Le Japon n'avait pas voulu capituler, donc on est allé vers l'arme atomique. Est-ce qu'on ferait exactement la même chose aujourd'hui? Je suis pas certain.
Non.
Je pense que même Oppenheimer, qui avait fait la bombe, quand il a vu la destruction que ça l'a entraîné lui-même, et je pense que, et avec lui, beaucoup de ses condisciples qui avaient travaillé à ce projet-là ont été horrifiés de voir la destruction que ça avait entraîné. Mais néanmoins, c'est l'histoire, hein? Et
c'est
justement.
Exactement.
Et ce soir, écoute, je viens de te faire une petite annonce. Je sais pas si tes collègues du retour t'ont informé, mais le 14 avril prochain, je serai au Salon du Livre de Québec.
Eh bien, j'ai vu les dates sur Facebook, donc je me suis dit, d'après moi, Christian va se tenir là. T'as deux nouveaux bébés, en plus, à présenter, frais sortis de la maison d'édition, en plus.
Voilà. Et donc, comme je vais être là le 14, je me suis dit que je serais pour arriver quand même 2-3 jours plus tôt à Québec.
Oh!
Et donc, le vendredi 12 avril, si ça te convient, parce que je sais qu'en après-midi, je vais être avec tes confrères du retour, mais on pourrait se faire, le 12 avril, une espèce d'émission en direct, toi et moi, en studio.
Bien
sûr! On pourrait faire un truc un peu spécial, comme inviter les gens à venir à poser des questions en direct, et on pourrait à ce moment-là essayer de réagir avec ces questions-là. Tout ça. En tout cas, on pourra penser à quelque chose, mais le 12 avril, je serai donc en studio à Québec avec toi pour l'émission des radios X-Files.
Eh bien là, tu me fais un énorme plaisir. C'est la première fois qu'on va se voir en personne depuis qu'on collabore ensemble.
T'amèneras tes livres, je vais te signer.
Oui, c'est clair. En fait, je traîne ma Bible des tueurs en série partout.
OK.
Et je la montre à tout le monde. Je suis allée me chercher un café cette semaine et la dame m'a dit, vous travaillez avec Christian Page. Puis j'ai fait sa journée, puis j'ai montré le livre, je l'avais dans les mains. Je dis, là, vous allez chercher ça. C'est disponible depuis le 20 mars en librairie. Courez, tu sais. J'ai fait de la promotion pour toi.
Non, parlons pas tout, on va en parler ensemble la semaine prochaine de ce sujet-là, de ces livres-là qui sont sortis un peu du contenu puis tout ça.
Effectivement, ce soir, c'est Vendredi Saint. Alors, on a déjà parlé de est-ce qu'il y avait un Jésus historique ou pas, est-ce qu'il a existé. Ce soir, on se concentre plus sur la période de justement la crucifixion.
La crucifixion, effectivement. On a parlé de la bombe atomique, c'est l'histoire. Et aujourd'hui, on va rester dans l'histoire. Et notre histoire, en fait, cet événement-là, ça peut paraître très anecdotique, hein, la mort de Jésus, la crucifixion. Il faut savoir que c'est l'événement le plus important de toute l'histoire de la civilisation occidentale.
OK.
On a tendance à l'oublier, là, mais cet événement-là va définir la civilisation occidentale. Donc, à partir de la mort de Jésus et la résurrection, évidemment, il va se produire, ça va être l'entraînement du christianisme qui va rapidement gagner tout le monde occidental. Et à travers ce christianisme, en ces 2000 ans d'histoire, on va voir, ça va être à la fois à l'origine des plus grandes réalisations architecturales, les plus grands chefs-d'œuvre musicaux, les plus grands chefs-d'œuvre artistiques. Et évidemment, ceux qui veulent voir toujours le verre à moitié vide diront, oui, mais c'est aussi l'événement, la religion qui a entraîné des génocides. Bien sûr, mais ça a forgé le monde tel qu'il est, que ce soit bien ou mauvais, ça a quand même forgé le monde, un peu comme on a parlé un peu plus tôt de la bombe atomique. C'est un événement marquant qui a changé la face du monde.
Ouais.
Le christianisme est exactement la même chose. Pour ses bons côtés, il y a toujours deux revers à une médaille, le bon côté et le mauvais côté, mais quand même, le christianisme, à travers son éclosion et la popularité qu'il a connue dans le monde occidental depuis 2000 ans, ça a été l'événement qui a marqué la civilisation, qui a transformé le tissu même de la civilisation occidentale, et c'est l'événement le plus marquant de toute l'histoire de la culture occidentale. La question qu'on doit se poser maintenant, mais est-ce que ça a eu lieu? C'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai? Et ça, c'est un grand débat. Hein? Dès qu'on aborde ces questions-là, puis là, je le tiens tout de suite à le souligner, on va essayer de le faire dans le respect des croyances de tout un chacun. On se prononce pas sur l'aspect de la croyance des gens. On veut simplement se prononcer sur l'aspect de l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire nous enseigne à propos de ça? D'abord, commençons par regarder, si tu le veux bien, le contexte religieux de la chose. Hein? Donc, quel est le récit sur lequel on s'appuie pour décrire la mort de Jésus. D'ailleurs, je tiens à souligner que ce qu'on a entendu, le petit extrait en début d'émission, c'est une émission qui est une reconstitution, un docudrame avec des passages un peu documentaires de 1997 d'un film de 3 heures qui s'intitule La vie de Jésus, qui est tout à fait exceptionnel. C'est un excellent documentaire. Évidemment, on le regarde dans un cadre religieux, là. Okay. C'est l'histoire telle qu'elle nous est décrite dans les évangiles et c'est le récit sur lequel on s'appuie. Parce que, il faut le savoir, je vais revenir un peu sur ces éléments de l'histoire, mais sur le plan religieux, le récit de la mort de Jésus nous est raconté par les quatre auteurs des évangiles, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui nous racontent cette histoire-là. Il faut savoir que même si on a réussi à faire des films de 2 ou 3 heures sur la passion du Christ, c'est un événement qui, dans le récit biblique, hein, dans le récit des évangiles, est très, très court. Hein. Ça tient dans quelques paragraphes seulement. Et on donne très peu de détails. Donc, on sait pas trop comment on le crucifie. On sait même pas trop à quoi ressemble la croix. Il y a pas grand chose que l'on sait. On nous dit, on amène Jésus, hein, ce que l'on sait de l'histoire, il est arrêté la veille, hein, où il est à ce moment-là avec ses apôtres, il est au jardin de Gethsémanie. On connaît l'histoire, il est approché par des Romains qui ont payé Judas, c'est le baiser de Judas, oui, qui va le désigner là dans l'obscurité aux Romains qui vont l'arrêter. Et là, les choses vont débouler rapidement, il est ramené à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, il va être amené devant Pilate, qui est le procurateur de Judée. Pilate, considérant que Jésus ne fait pas partie de son district au niveau de la juridiction, hein, il en a, parce que lui, c'est le procurateur de Judée, mais il s'occupe surtout des affaires qui concernent Jérusalem. Jésus venant d'une région plus éloignée, qui est en fait Nazareth. Mais il faut savoir que dans cette époque-là, 20 kilomètres, c'était très, très éloigné.
Ah oui,
okay. Donc, lui, il se dit, ben, ça me concerne pas, ça concerne plutôt Hérode. Il renvoie Jésus à Hérode, et Hérode dit, ben non, puisque c'est une affaire juridique, ça concerne Pilate. Il retourne à Pilate.
Fait que même lui a vécu des délais judiciaires.
Oui, c'est ça. Il n'y avait pas l'arrêt Jourdain à l'époque. Et ça se fait assez vite. Hein. Donc, et Pilate, bon, on connaît l'histoire. Hein. Il va proposer au peuple, est-ce que vous voulez que je libère Jésus? Parce que durant la fête de Pâques, on libérait généralement un prisonnier de droit commun et l'on propose de libérer soit Barabbas ou soit Jésus. Et finalement, le peuple choisit de libérer Barabbas et Jésus est condamné à la crucifixion. Bon, il faut savoir ici, là, et c'est très court, hein, après ça, Jésus porte sa croix, puis ils s'en vont au Golgotha, on le crucifie, le troisième jour, il va ressusciter. Bon, il y a plein d'éléments ici, là. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de prendre un récit, surtout les récits bibliques comme ça, hein, parce que ce sont des récits qui sont, hein, si on utilise le terme technique, ce sont des récits qui sont catéchisés. Ce sont des récits, donc, qui ont été transformés ou qui ont été écrits dans le but de témoigner d'une foi et non pas d'un événement historique.
Okay.
Donc, même cet aspect-là, là, de on a libéré Barabbas, il y a une parabole derrière ça, hein, parce que l'arrestation de Jésus n'est pas un problème romain. Je reviendrai là-dessus, mais c'est un problème juif. Hein, c'est le Sanhédrin qui veut se débarrasser de Jésus parce que son discours va à l'encontre des enseignements de la Torah. Et en libérant Barabbas, les auteurs disent aux lecteurs, hein, on libère Barabbas, mais Barabbas ne fera plus de troubles à l'occupant romain parce que le Sanhédrin va avoir apaisé un peu ces différences-là entre l'occupant et l'occupé. Donc, ça veut même pas dire que Barabbas existait. C'est simplement une espèce de clin d'œil. Barabbas, dans le récit, représente plutôt, ça se peut qu'il existait, là, mais sur le plan historique, ça se peut que le personnage existait, mais ça se peut qu'il ne soit simplement qu'une symbolique pour représenter les problèmes auxquels devait faire face l'occupant romain avec les occupés qui étaient les gens qui vivaient à Jérusalem à cette époque. Donc, il faut faire très attention de ne pas prendre ces récits-là au mot à mot. Hein. Quand les auteurs les ont écrits, même les auteurs, hein, on en a déjà parlé ensemble, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est faux de s'imaginer que 4 bonhommes, un bon matin, se sont levés en se disant « Hey, on va écrire ça, nous autres ». C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Les textes, hein, on a eu beaucoup durant les premiers siècles, alors que le christianisme commençait à se développer à une vitesse fulgurante, hein, il faut le dire, ça a été fulgurant le départ du christianisme. Au moment où ce phénomène-là va commencer à se répandre, on a beaucoup de textes qui nous racontent l'histoire de Jésus ou des anecdotes par rapport à Jésus. Et ces textes-là vont être réunis. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait faire un cours universitaire avec ça. Là.
Oui.
Mais éventuellement, ces textes-là vont être rassemblés et divisés en fonction des philosophies qu'ils transportent. On n'est pas certain des auteurs. On a plusieurs sources. Hein. On va leur donner des lettres en disant ah, ça c'est la source Q, ça c'est la source J. Bon, on va donner des sources. Mais les textes sont regroupés selon des fonctions davantage sont spirituelles ou philosophiques et vont être retravaillées sous les noms de Matthieu, Marc, Luc et Jean. On croit que de ces quatre évangélistes, un seul d'entre eux a probablement côtoyé Jésus, c'est l'apôtre Jean. Les autres textes viennent de sources qui sont secondaires ou au troisième niveau. Et ces écrits-là ont tous été écrits entre, grosso modo, l'an 50 et l'an 100 après Jésus-Christ. Donc, on n'a aucun texte écrit immédiatement après la mort de Jésus, mais plus tardivement. Et les derniers textes qui vont être regroupés, les textes dont on parle, c'est surtout entre l'an 50 et 100, mais on retrouve des textes même un peu plus tardifs autour de l'an 110 ou 120 de l'ère commune. Donc, ce sont des textes qui sont plus étendus dans le temps.
Mais semble que ça devient quand même difficile à décrire ou à relater certains événements. Tu sais, je comprends qu'il y a peut-être beaucoup d'images, puis beaucoup de... Mais il me semble, après, autant de temps, là.
Oui, absolument. Mais encore une fois, il faut se rappeler que ces gens-là, on a une vision qui n'est pas celle de ces gens-là. Aujourd'hui, quand tu écris quelque chose, le journaliste qui écrit au Journal de Québec, quand le journaliste écrit, lui, il est là pour rendre compte d'un événement qui s'est passé. Mm-hmm. Les auteurs des évangiles sont pas là pour ça. C'est pas ça qu'ils font. Les autres, ils rendent compte d'une foi, pourquoi ils croient à ça, et ils vont retravailler l'histoire. Il y a la trame de fond qui est bien réelle, mais ils vont la retravailler de manière à justifier leur croyance. Donc, c'est des textes qui sont très particuliers. Bon, encore une fois, comme je disais, c'est des textes qui sont excessivement courts, peu détaillés, et ces textes-là, éventuellement, au 4e siècle, donc alors que c'est l'empereur Constantin qui réunit d'ailleurs une nouvelle Rome qui est Constantinople en Turquie, qui est aujourd'hui la ville d'Istanbul, lui décide que le christianisme qui a pris une telle importance au cours des 2-3 derniers siècles, qu'à ce moment-là, il décide, on essayait d'éteindre un peu l'éclosion du mouvement, on saisissait les terres et les bien des gens qui se définissaient ouvertement comme des chrétiens. Et quand il y avait des troubles à Rome, on accusait souvent les chrétiens pour les faire et pour qu'ils deviennent un peu les boucs émissaires. Et puis, éventuellement, au 4e siècle, Constantin dit, ça c'est fini, maintenant les gens peuvent pratiquer le christianisme. Et c'est pas lui qui va officialiser le christianisme comme la religion de Rome, ce sont ses successeurs, mais à partir de Constantin, adhérer à ce mouvement spirituel qu'est le christianisme n'est plus une faute, n'est plus condamnable, et on va rétrocéder les terres dans la mesure du possible. On va rétrocéder ce qui a été confisqué aux chrétiens va leur être retourné. Et puis, il va y avoir à ce moment-là un concile qu'on appelle le concile de Nicée, le premier concile, où on va réunir des gens qui représentent différents mouvements et qui sont liés à cette éclosion du christianisme. On va réunir ces gens-là. Ce sont des penseurs, des espèces de savants de leur temps. Et ces gens-là vont déterminer quels sont les textes qui vont constituer la Bible. Donc, la Bible que l'on retrouve en librairie. Donc, c'est cette Bible-là qu'on dit Bible, les textes canoniques. Qu'est-ce que c'est que la Bible canonique? Ce sont ces gens-là. On est au début du 4e siècle, aux alentours de 327 de mémoire, le Concile de Nicée, 325-327. Ces gens-là se réunissent, puis on s'assoit pour dire, ce texte-là, il est important, ce texte-là, il l'est moins. Les textes qui sont moins importants, qui sont mis de côté, qu'on dit textes apocryphes, sont pas contrairement à ce que certains ésotéristes aiment bien nous raconter. C'est pas des textes interdits, c'est pas des textes qui racontent des affaires impossibles. Non, ce sont des textes qui ont simplement été mis de côté parce que ça n'ajoutait rien au récit lui-même. C'est un peu comme si on avait un film de 120 minutes, puis le producteur dit, faut que je résolve ça à 90 minutes, je vais couper dans le gras. Ça n'enlève rien à la trame du film, même si on a retiré quelques minutes à gauche et à droite. C'est un peu ce que l'on fait ici. Et le Concile de Nicée arrive avec une version qui est la version à peu près de la Bible qu'on a chez soi. Donc, dans ce récit-là, la mort de Jésus, comme je l'ai mentionné, c'est un récit qui est très court. Il est en trois temps. Lorsqu'après son arrestation, Jésus est ramené à Pilate, et là, Pilate dit, je le condamne, on envoie la crucifixion. Là, on arrive à ce moment-là qui est vraiment la passion. Et ce moment-là, il est... combien de temps Jésus va-t-il rester sur la croix? Parce que ça commence par la crucifixion et ça se termine par la résurrection. Donc, sur la croix, en théorie. Puis encore là, c'est encore très partagé. Les historiens s'entendent pour dire que le texte biblique semble dire que Jésus a été crucifié. Il est demeuré 6 heures sur la croix. Et sur les 6 heures, c'est assez curieux parce qu'encore une fois, faut se rappeler, on n'est pas ici dans un récit historique, on est dans un récit catéchisé. Donc, ça peut paraître étrange, mais l'agonie de Jésus commence à la 3e heure. Donc, moi, il me semble, si on me clouait sur une planche, le premier clou, ça serait déjà le début de l'agonie.
Sans oublier la couronne.
Mais dans le texte, hein, on précise bien ces étapes-là. Il y a Jésus, il est amené au Golgotha, donc c'est un rocher qui est à l'extérieur des murs de la ville de Jérusalem. Et donc, il est amené là, il est placé sur la croix. On va revenir sur l'élément de la croix, on ne sait pas trop à quoi ressemble, mais bon, il est crucifié. Et à ce moment-là, on nous dit, là, t'as des récits, hein. L'ensemble des récits nous dit, il y en a un qui diffère. Quand on regarde Matthieu, Marc et Luc sont à peu près d'avis que Jésus est crucifié vers, théoriquement, 9 heures le matin. Et à midi, hein, le ciel s'obscurcit. Mais quand on dit le ciel s'obscurcit, encore une fois, il faut regarder plutôt dans l'imagerie que ça donne.
Ouais.
C'est le début de l'agonie de Jésus. Donc, okay. Il est crucifié. Mais c'est vraiment à partir de midi, en les cieux s'assombrissent, c'est le début du moment de l'agonie qui va durer 3 heures et dans lequel les prophéties annoncées vont se réaliser. Hein, comme on disait, le prochain Messie, il va être crucifié. Jésus est donc crucifié. Ensuite, on disait, le prochain Messie, on va prendre ses vêtements, mais ses vêtements ne seront pas déchirés, ils seront partagés entre ses bourreaux. C'est exactement ce qui se produit. Est-ce que ça s'est réellement produit au pied de la croix? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mais quand le récit biblique nous dit, ah, les Romains se sont partagés les vêtements de Jésus puis ils les ont pas déchirés, l'image ici qu'il faut retenir, c'est que ça correspond à la prophétie. D'ailleurs, la prophétie disait, le prochain Messie doit naître à Bethléem parce que c'est là où est né roi David. Hein, quand on avait parlé de y a-t-il eu un Jésus historique, on avait abordé cette question-là. Jésus est-il né à Bethléem? Probablement pas. Toute sa vie, il a été décrit comme étant Jésus de Nazareth. Pourquoi serait-il né à Bethléem? Là, les auteurs des textes, hein, nous inventent une histoire pour le faire naître à Bethléem. Hein? Il y a une espèce de recensement, puis là, Jésus doit quitter, puis là, il arrive en dedans, puis là, Marie va accoucher dans une étable. Mais l'important là-dedans, c'est parce que la prophétie voulait que le prochain Messie naisse sur la terre du roi David, un premier roi de Jérusalem. Donc, la terre du roi David, c'est Bethléem. Donc, il faut que Jésus naisse à Bethléem. Donc, on va réajuster le tir, on va réajuster le récit pour que Jésus naisse à Bethléem. Donc, ça, c'est très important, hein, de ne jamais prendre le récit au pied de la lettre. Mais reprenons notre histoire. Notre Jésus est crucifié. Il est théoriquement, selon 3 apôtres sur 4, il est crucifié à 9 heures le matin. À midi commence son agonie parce que les cieux s'assombrissent. Cette longue et lente agonie va perdurer pendant 3 heures et il rend son dernier souffle vers à peu près 3 heures de l'après-midi. Et pourquoi je dis 3 apôtres sur 4? Parce qu'il y en a un, il y a un des apôtres, hein, qui est Jean, qui lui, hein, dans son récit, à un moment donné, il dit, parce qu'on donne pas les heures, tu comprends, on n'a pas un chronomètre, il dit, bon, à 8h20, il a fait ça. Mais à un moment donné, dans le récit de Jean, on nous dit, à la 6e heure, Pilate présente Jésus devant, au prétoire, devant les gens qui sont là. Mais la 6e heure, si c'est la 6e heure, et on se réfère à la façon dont les Juifs marquaient le temps, eux, les Juifs marquaient le temps en fonction du lever du soleil, qui était à peu près à 6h du matin. Donc, si Pilate présente Jésus devant le prétoire à la 6e heure, il est déjà rendu midi. Alors, les historiens croient plutôt que Jean s'est référé à la façon dont les Romains marquaient le temps, c'est-à-dire à peu près à partir de minuit. Donc, s'il marque le temps à partir de minuit, là, ça semble correspondre au récit des autres évangélistes qui disent que Jésus a été condamné à 6h, crucifié à 9h, a débuté son agonie à midi et mort à 3h. Là, ça semble fonctionner. Mais encore une fois, c'est pas très important tout ça. Ce qui est, tu sais, on a une controverse. A-t-il utilisé le temps romain? A-t-il utilisé le temps juif? Ça, c'est un débat qui est pas très important ici. Ce qui est important, c'est plutôt la séquence des événements. La crucifixion, l'arrivée le ciel qui s'assombrit, hein, c'est le courroux de Dieu pour avoir à sacrifier son fils. Et là, la lente agonie, les prophéties qui vont se réaliser durant cette période d'agonie et au moment où il va décéder à 3 heures. D'ailleurs, il y a un autre élément qui est important de retenir. À ce moment-là, on était juste avant le sabbat et Jésus en tant que tel a pas été très résistant sur la croix, parce qu'il faut savoir que historiquement parlant, les crucifiés pouvaient demeurer plusieurs jours sur la croix avant de décéder. Je vais revenir sur l'aspect historique là, mais rien que dire que Jésus, lui, son agonie est relativement lente, hein. C'est-à-dire assez rapide.
Ouais,
hein,
mais mon Dieu, tu m'étonnes avant. Si c'est vraiment des faits historiques là.
Ouais, c'est ça. Donc c'est assez commun. Puis là on nous dit, ben là on a voulu briser les jambes de Jésus parce que comme Rome, il fallait que les crucifiés soient morts avant le début du sabbat. Donc, le début du sabbat débutait au coucher du soleil. On a dit, bon, on va briser les jambes de Jésus. Mais encore une fois, hein, le récit va récupérer la légende. Hein. Il faut pas que le prochain Messie ait les jambes brisées. Il faut pas que son corps soit endommagé. Donc, on nous dit, c'est là que le récit fait intervenir un lancier qui s'appelle Longinus ou Longin, qui arrive avec une lance et qui va percer le flanc du Christ, plutôt que de lui briser les jambes. Mais le fait de pas lui briser les jambes, c'est pas un fait historique, ça, c'est un fait qui est catéchisé. On a besoin, c'est pour le récit, c'est important que Jésus n'ait pas les jambes brisées. Donc, on lui brise pas les jambes, le lancier va lui percer le flanc. Et d'ailleurs, cette fameuse lance, il faut le dire, encore aujourd'hui ou en 2024, elle est l'objet d'une admiration extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de la voir, la supposée lance, hein, elle est à Vienne. Et bon, il y a toute une histoire même qui la relie au Troisième Reich, Adolf Hitler et compagnie. Hein. C'est un objet qui est magnifique, mais qui n'est probablement pas une lance romaine. Hein. Les vraies lances romaines, c'était tout petit, c'est une petite pointe, là. Mais la lance qui est à Vienne, elle est magnifique. C'est un gros objet, c'est un travail d'orfèvrerie qui est tout à fait magnifique. Et on le dit, ben c'est voilà, c'est la Sainte Lance, mais possiblement que c'était pas la vraie lance. Mais peu importe. Après que Jésus soit mort en croix, jambes brisées ou non, c'est pas très grave, on le décroche, et ensuite, au moment où il est décroché, là, on a encore une fois le récit qui va venir, qui intervient, hein, et on a un type qui arrive, qui est un type, c'est Joseph d'Arimathie, selon les récits bibliques, on nous le dit, bon, les trois premiers apôtres, Matthieu, Marc et Luc, nous disent que c'est un homme bon, Jean, lui, nous ajoute même que c'est un disciple de Jésus, mais dans le sens disciple, on veut plutôt le présenter comme un supporter de Jésus. Donc, ce Joseph d'Arimathie va proposer d'enterrer Jésus dans sa tombe. Lui-même est un vieil homme et il s'est fait creuser une tombe. Et à l'époque, la façon dont on plaçait les corps, à ce moment-là, on creusait des cavernes, littéralement des grottes dans la pierre. Et ces grottes-là, on appelle ça un hypogée. Si on prend le terme technique en archéologie, c'est un hypogée. Donc, on plaçait les corps dans les hypogées. Et donc, lui, Joseph d'Arimathie, vient juste de faire construire le sien. Et il offre d'y placer le corps de Jésus puisque le sabbat arrive. Donc, Jésus est placé dans l'hypogée. Et on referme à ce moment-là une espèce de pierre roulante qu'on met devant le tombeau. Et le troisième jour, donc, Jésus va ressusciter. Et là, à ce moment-là, la prophétie est accomplie. Donc, tous ces éléments-là, c'est ce que nous raconte le récit biblique. Comme je l'ai mentionné, ça tient dans quelques paragraphes. C'est pas très important de se pencher trop sur chacun de ces éléments-là, parce que ce sont des écrits qui sont catéchisés. Est-ce que Jésus a été 3 heures? Est-ce qu'il a été 6 heures? Bon, le consensus, c'est de dire qu'il a été plutôt 6 heures, mais son agonie a duré 3 heures. Bon, mais tous ces éléments-là, encore une fois, il faut le voir dans un contexte catéchisé.
Radio X Files.
Radio X.
Ouellette.
Wow. En direct.
En direct.
Comme le monde qui nous écoute, mais qui nous haïssent à mort. Oui. Ils ont besoin de trouver quelqu'un pour varger mentalement, pour s'exprimer, donner de la. Fait que moi, des fois, je me dis, ben écoute. Si ça, il fait du bien.
Oui.
Tu peux me traiter de gros marron. Si ça t'a aidé à pas te pendre ou à pas, tu sais, garde. Je suis là. Moi, je tends les joues.
Ouellette, en direct. Lundi au vendredi, midi.
Radio X.
Présenté par l'Entrepôt de la Réno. Panneau acoustique en latte de bois à 99 $. 9300 rue John Simons, Québec et 3790 rue Jean H. Kruger, Trois-Rivières. Entrepôtdelaréno.com.
Capsule.
Radio X.
Supporte ses partenaires.
Le mois d'août commence et tu penses déjà aux frais occasionnés par le retour à l'école? Pas de panique, Oricom a la solution parfaite. Internet fibre 1 gigabit à seulement 59,95 par mois. Pour un service client exceptionnel, choisis les spécialistes de l'Internet, oricom.ca. Tu le regretteras pas. oricom.ca. Le Rodéo Mont-Saint-Anne présenté par Ranch Brands, c'est un rendez-vous du 22 au 25 août. Un rodéo urbain au cœur de Sainte-Anne-de-Beaupré et un spectacle de Matt Lang. Billets au rodeomsa.com. Longue vie au cowboy. Les deux rives du fleuve s'illuminent au rythme des grands feux Loto-Québec tous les mardis et jeudis jusqu'au 22 août et le samedi 24 août pour la grande finale. Soyez des nôtres pour les festivités. Un événement gratuit gratuit pour tous. Programmation complète sur lesgrandsfeux.com. Envolez-vous pour Nashville grâce à Québec Brew. Jusqu'au 31 août, achetez un produit Bud Light dans les restos Québec Brew et vous pourriez gagner un voyage de 3 jours à Nashville incluant vol d'avion, 3 nuitées, 500$ d'argent de poche, match de hockey et de football. Seulement chez Québec Brew à Vanier-Charlebourg et l'Ancienne Lorette.
Tout le monde le sait, Bob Bissonnette, c'est vraiment gros. Puis là, Bob va venir. Oui, Bob Bissonnette live part en tournée. Sherbrooke, Woodstock en Beauce, Rimouski, Rouyn et Montréal. C'est vraiment votre dernière chance de voir le vrai Bob sur écran géant. Gorgé! BobBissonnette.com.
Votre projet cette année? Obtenir votre licence d'entrepreneur en construction. Groupe GSC.com vous offre une formation ultra innovatrice et hybride. Inscrivez-vous et suivez votre formation en ligne, en classe ou combinez les deux. Un encadrement hors pair, des formateurs compétents, une équipe dynamique, une seule adresse. Groupe GSC.com. La façon la plus simple d'obtenir votre licence RBQ. Groupe GSC.com. 1995 Frank Carrel, suite 101, formé pour bâtir.
Mettez de l'électricité dans votre conduite avec le Kia EV6. Sa batterie se recharge de 10 à 80% en seulement 18 minutes. Le temps de déguster un bon café. Le Kia EV6 est aussi rapide que silencieux avec une puissance allant jusqu'à 576 chevaux. De plus, il est performant toute l'année avec sa traction intégrale en option. Rendez-vous chez votre concessionnaire pour profiter des journées estivales de Kia et prenez le volant d'un Kia EV6. Visitez kia.ca.
Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
Moi, l'été, j'arrête jamais. Faut tondre le gazon, nettoyer la piscine, prendre soin du jardin, des plates-bandes puis du chien qui s'est encore sali dans le jardin. La seule fois que j'arrête, c'est pour aller donner du sang. Puis ça, j'arrêterai jamais.
Prenez rendez-vous pour la collecte de sang à venir près de chez vous sur le site web d'Emma Québec. C'est la grande vente chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les fraises du Québec à 2,64 $ le litre, le beurre à 4,85 $ la livre et les ailes de poulet format club à 3,95 $ la livre. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
Nous, les enfants, on aime démarrer la rentrée l'esprit tranquille. On veut du choix et des bas prix. En deux mots, Jean Coutu.
Les enfants ont toujours raison. Une rentrée réussie commence chez Jean Coutu. Jusqu'au 28 août avec moi, obtenez 5 fois les points à l'achat d'articles scolaires. Et empressez-vous de découvrir votre coupon surprise dans l'appli Jean Coutu et moi pour recevoir au moins 10 fois les points à l'achat de cosmétiques. Les détails à jeancoutu.com. Certaines conditions s'appliquent. Moi est une marque de commerce enregistrée.
Chez Sport Expert et Atmosphère, sautez dans la rentrée avec l'événement Achetez et obtenez. Jusqu'au 27 août, obtenez 25 $ en carte promo à l'achat de 100 $ de nouveautés des grandes marques. Détails en magasin ou au sportexpert.ca.
Après 4 ans d'absence, les prix employés sont de retour chez Lévis Ford. Profitez des prix les plus bas de l'année sur vos véhicules Ford préférés. On vous offre le meilleur service parce que vous faites partie de la famille. Il n'y a pas de meilleur moment de passer chez Lévis Ford. Les Ford de Lévis.
Pour la première fois à Québec, assistez à la plus grosse convention internationale de tatouage, le Québec Tattoo Show. Venez vous faire tatouer avec plus de 400 artistes et des milliers de flashs. Découvrez les dernières tendances en matière de tatouage, concours, spectacles musicaux, arts urbains, cracheurs de feu et encore plus. Préparez-vous à plonger dans un monde où l'art et l'expression corporelle se rencontrent. Du 23 au 25 août à Expo Cité. Billets au québectatouchow.com. Une collaboration Peak, Paradox Tatouage et Radio X.
Chez Concept Piscine Design, c'est la méga liquidation de fin de saison. Les meilleurs prix de l'année en magasin. Des gros rabais sur les piscines hors terre, les piscines creusées, les spas et les meubles de jardin allant jusqu'à 60%. Tous nos départements sont en promotion. Piscine creusée et piscine hors terre pour une installation rapide là. Meubles de jardin, pergola, gazebo, spa en inventaire disponible pour la livraison dès maintenant.
Concept Piscine Design, installateur de bonheur depuis plus de 30 ans. Henri IV, sortie Sainte-Geneviève.
Le mois d'août commence et tu penses déjà aux frais occasionnés par le retour à l'école? Le plus vieux aura son appartement près du cégep et t'avais pas pensé qu'il aurait besoin d'une connexion Internet? Pas de panique. Oricom a la solution parfaite. Internet fibre 1 gigabit à seulement $59,95 par mois. C'est rapide, super fiable et vraiment pas cher. Pour un service client exceptionnel, recommandé, meilleur choix, protégez-vous, choisis les spécialistes de l'Internet. Visite oricom.ca, tu le regretteras pas. oricom.ca.
Bonjour, je suis expert en sommeil chez Dormez-vous et des fois spécialiste de cinéma. Voyez-vous, Dormez-vous offre des bases de lit ajustables avec massage, Bluetooth, chargeur de téléphone et même un système de son. Parfait pour une soirée cinéma. Mais pour choisir le film, ça c'est une autre histoire. Chez Dormez-vous, on veille à votre sommeil et à votre divertissement. À l'achat d'une base ajustable style de vie, obtenez jusqu'à 1 769 $ de remise sur une carte promo Dormez-vous pour un temps limité. Détails en magasin ou en ligne.
Viens faire un tour chez Monsieur le Fumeux à Saint-Flavien. En vedette sur place, les fumoirs au granules GMG nouvelle génération ainsi que les fameuses planchas Pit Boss et Louisiana Grill. Monsieur le Fumeux, c'est l'incontournable pour les vrais tripeux de barbecue. Et n'oublie pas de nous suivre sur Facebook pour ne rien manquer.
Personnellement, j'ai jamais entendu personne dire
« Hey, je suis tellement contente, là, j'ai payé plus cher qu'exposé. »
Pour économiser, ça commence par la poste avec l'Antidote Plus, un carnet rempli d'aubaines et de rabais livrés directement chez vous avec le courrier. Resto, activités, soins, services, l'Antidote Plus a même une section habitation où vous trouverez des entrepreneurs en tout genre pour vous faciliter la vie au quotidien. La prochaine fois que vous le recevez, conservez-le précieusement. L'Antidote Plus, un produit de l'Antidote Média.
Pour l'inspection et l'installation de votre système de protection incendie, faites confiance à Prévention Incendie Inferno. Gicleur, borne-fontaine, extincteur, alarme et plus. Trouvez la meilleure solution pour vous. Prévention Incendie Inferno, 581-349-1443.
J'ai décidé de te donner du temps.
Tu l'aimes ton beau carbo? Avec ses mains pleines d'huile?
Oui.
Son odeur de gaz? Yeah. Tu peux maintenant l'écouter.
Tous les jours.
Le Carbo Show. Carbo commente l'actualité et vous donne la parole.
Allô, Radio X.
Le Carbo Show.
Avec Carbo.
Et ce sera ainsi.
Lundi au jeudi, 18h.
Dès le 19 août.
Choix.
Choix.
98.1.
À Québec.
C'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
This is not a test.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission des Radio X-Files. Et pendant qu'on est en train de relater, mon cher Christian, la crucifixion de Jésus, André nous dit par texto que c'est Jésus de Nazareth, surprise 2. Donc, j'invite les auditeurs à le mettre sur mute pour avoir un visuel de ce qu'on raconte.
Oui, et là, excellent film de Zeffirelli, d'ailleurs.
Vraiment.
Nazareth, c'est vraiment le film qui est la référence. Hein, quand on parle de la mort de... Quand on parle de la vie de Jésus, c'est vraiment le film référence.
Mettez ça sans son avec l'image. Et t'as piqué beaucoup ma curiosité maintenant avec les faits historiques.
Les faits historiques. Faut comprendre, comme c'est un événement majeur qui a marqué la civilisation occidentale, c'est sûr que les historiens se sont penchés là-dessus pour essayer de déterminer ce qui était possible de vérifier. Mais ce qu'on ne peut pas vérifier, on peut pas confirmer si c'est vrai ou pas vrai. Tu comprends? Donc on laisse la porte ouverte aux gens qui veulent croire ce qu'ils veulent.
Est-ce que ça a été un gros casse-tête quand même, ou avec l'archéologie?
Beaucoup. D'abord, dans un premier temps, les historiens font table rase de tout ce qu'on appelle les reliques, hein, parce que les gens diront, oui, mais on a le linceul de Turin, on a encore la plaque, hein, au-dessus de la croix de Jésus, hein, c'était marqué Jésus de Nazareth, c'était écrit en latin, en grec.
La sainte lance dont on a parlé tantôt aussi.
C'est ça. Donc, le Titulus, on a encore une partie d'un morceau de bois qu'on dit être le Titulus, qui est à Rome, hein, l'écriteau sur la croix. Donc, le linceul, le Titulus, les clous, les morceaux de la croix, la sainte lance, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, toutes ces reliques-là, on fait table rase, on les met de côté parce qu'elles sont trop controversées. On peut pas déterminer si ce sont les vrais objets, même si on a une longue tradition d'admiration, de vénération de ces reliques, on peut pas démontrer que ces objets-là sont ceux qui ont été utilisés lors de l'événement historique lui-même. Jésus, on l'a déjà mentionné, on a fait une émission là-dessus, hein, c'est un personnage lui-même historique qui est très controversé. Hein, de façon même pas unanime, mais de façon générale, les historiens s'entendent pour dire qu'il y a sûrement eu un personnage, un Jésus historique, peut-être très différent du Jésus des écrits bibliques, mais il y a probablement eu un personnage. Et la grande raison pourquoi, c'est justement cette éclosion du mouvement du christianisme qui s'est répandue très, très rapidement. Donc, il fallait au départ, si tout ça... Il faut se rappeler quand le christianisme commence à s'étendre et à gagner sur les pays étrangers, tout ça, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui vivent à ce moment-là, qui ont ou côtoyé Jésus ou que leurs parents ont côtoyé Jésus. Donc, s'il n'y avait pas eu un Jésus historique, le mythe aurait mal pris. Tu comprends? Ça aurait été difficile de pouvoir instrumentaliser un récit comme celui-là si au départ, il n'y avait pas eu un véritable personnage. Mais c'est vrai qu'il y a une minorité d'historiens qui doutent de l'existence d'un Jésus. Donc, je le mentionne, c'est correct. Je veux dire, l'histoire, on n'a pas de récit, c'est normal qu'on n'ait pas 100% là, une unanimité sur des sujets aussi controversés.
Oh, on n'en aura jamais même.
Non, c'est ça. Les sources, hein, il faut le dire, hein, ce sont des sources qui sont excessivement pauvres. Hein. Si on parle précisément de la crucifixion, les seules sources que l'on a à peu près, ce sont les fameuses sources bibliques, hein, donc qu'on a mentionné, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ces textes-là, ce sont des textes d'ailleurs qui ont été rassemblés lors du Concile de Nicée, là, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, en 325 après Jésus-Christ, et il y a plein d'autres textes qui ont été mis de côté, mais ça reste quand même un récit qui est excessivement pauvre. C'est un récit d'ailleurs qui a été amélioré avec le temps, hein, parce que dans le récit biblique, Jésus il tombe pas, t'sais. Mais on aime bien le faire tomber, tu sais, le chemin de croix, là, ça c'est fait, ouais. Ça fait partie de la tradition, mais c'est pas écrit dans les évangiles ce que Jésus tombe, hein. Et on aime bien aussi dans les récits, on voit Jésus qui porte sa croix jusqu'au Golgotha. En réalité, il ne le fait pas. Dès qu'il sort du prétoire, les récits nous disent qu'il y a un type qui passait par là, qui s'appelait Simon de Cyrène, et comme Jésus était déjà en partie épuisé par les tortures qu'il avait subies durant la nuit, hein, la flagellation, la couronne d'épines, etc., on a dit à ce type qui passait, Simon de Cyrène, toi, porte sa croix vers le Golgotha, parce que il y arrivera pas, t'sais, il était trop faible. Donc, l'image de Jésus portant sa croix, là, ça fait bien dans la tradition religieuse, mais dans les faits décrits dans les évangiles, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais enfin, on arrive à parler de cette fameuse croix. À quoi ressemble-t-elle? Là, on va briser un peu un gros mythe. Hein?
Okay.
On sait pas trop à quoi ressemblait la croix. Généralement, celle que l'on voit dans les églises, hein, c'est une belle croix en forme de croix. Mais dans les faits historiques, on n'est pas certain que ça ressemble à ça. Les historiens, encore une fois, on n'a pas une unanimité, mais les historiens croient que la croix devait plutôt ressembler à un T. Donc, l'individu qui était amené vers le lieu de son exécution, transportait la poutre, hein, la poutre qui était la poutre horizontale qu'on appelait le patibulum. Donc ça, il avait ça sur les épaules, mais le bâton, hein, le poteau sur lequel on l'accrochait, ce poteau-là qu'on appelait le stipe, lui demeurait toujours au lieu de l'exécution. Lui, on l'enlevait pas. Et on croit que le condamné arrivait avec son patibulum et on soulevait le patibulum et il était simplement fiché sur le dessus du poteau. Ce qui veut dire que le crucifié, contrairement à l'imagerie religieuse, le crucifié, il est à hauteur d'homme. Autrement dit, si Jésus n'avait pas eu les jambes repliées puis clouées sur le bâton, là, sur le poteau, ben, il aurait pu se mettre les orteils à terre.
Okay. Et qu'on brisait peut-être les os des, ouais, jambes, hein?
Non.
Même pas?
Pour s'assurer qu'il était mort, là. C'est pour ça qu'on brisait les os des jambes. Mais si on le mettait comme ça sur le dessus, tu sais, autrement dit. Et pourquoi on le plaçait à hauteur d'homme? Ben, parce que c'était, puis il y a certains récits ou certains historiens qui croient que la croix devait plutôt ressembler à un X. Donc, tu vois, même sur la forme, oui, on n'est pas certain. Mais, généralement, on pense que ça devait plutôt ressembler à un T, que le patibulum était fiché au sommet du poteau, que le condamné était à hauteur d'homme. C'est sûr que dans l'imagerie religieuse, on met toujours Jésus très, très haut. Hein. Quand tu regardes les peintures, on voit un Jésus qui est toujours, d'ailleurs, au milieu des larrons, mais plus haut que les larrons. Puis, il est toujours très, très haut du, oui, sol. On dirait une impression qu'il est à 4 ou 5 mètres du sol. Mais il faut comprendre, puis là, je vais peut-être choquer les amateurs de petits hommes verts, là, mais il faut savoir qu'à la Renaissance et au Moyen-Âge, l'imagerie religieuse était excessivement contrôlée. Les peintres, là, pouvaient pas dessiner un Jésus comme ils voulaient. Ils pouvaient pas mettre une étoile par-ci, par-là, puis un vaisseau spatial, puis un extraterrestre. Tout ce que vous voyez dans les peintures religieuses de la Renaissance, tout ça a été calculé. On avait des barèmes très précis sur la forme des nuages, sur la forme des étoiles, sur la forme des rayons lumineux. Jésus devait être placé haut sur la croix, plus haut que les larrons, parce que quand tu regardais la toile, il fallait que tu lèves les yeux vers le ciel, et s'il était placé très haut, il était plus proche de Dieu. Il y a toute une symbolique derrière ça. Donc, arriver puis regarder des tableaux qui ont été peints au 16e ou 17e siècle, dire, hey, gars, il y a comme un rayon de lumière ici, puis ça, à mon avis, c'est peut-être un vaisseau spatial. Pouette, pouette, pouette. c'est pas ça. C'est sûr que ça fait pas partie du tableau. Tout ça a été calculé, pensé. Et si vous voyez une lumière, un rayon de lumière ou n'importe quoi sur un tableau, dites-vous bien que quelque part derrière ça, il y a des prêtres, il y a des évêques qui ont regardé le tableau et ont choisi de mettre ça parce que ça avait un symbole religieux. Donc, il faut regarder dans la symbolique et non pas dans ce que représente le tableau. Mais bon, Jésus est crucifié donc à hauteur d'homme. Pourquoi? Ben parce que on veut que les gens qui passent devant lui puissent lire l'écriteau qui est sur la croix. Dans le cas de Jésus, c'était Jésus de le Nazaréen, roi des Juifs, c'est ça qui était écrit. Et d'ailleurs, c'est toute une controverse, hein, parce qu'on s'est dit pourquoi dire le Nazaréen? C'est Jésus qui se prétend le roi des Juifs, pas Jésus Nazaréen, roi des Juifs. C'est Jésus le Nazaréen qui se prétend roi des Juifs. Et c'est là dans la Bible, on dit, on a fait cette remarque-là à Pilate, et Pilate a dit parce que je l'ai écrit, puis ça va rester. Bon, ben c'est, voilà. Mais donc, on voulait que les gens qui passent devant Jésus, le crucifié ou le condamné, puissent lire l'écriteau de sa condamnation. Pourquoi cet individu-là a été condamné? Des condamnés, c'est des condamnés de droit commun. Donc, on voulait lire l'écriteau. Ensuite de ça, on voulait qu'il soit à hauteur d'homme parce que on veut que les gens puissent l'insulter, puissent lui cracher au visage. Ouais. Cette humiliation fait partie du supplice aussi. Donc, si le type il est crucifié à 4 mètres du sol, là, tu peux plus faire ça. Là. Donc, c'est pourquoi il était probablement là placé à hauteur d'homme. Ensuite de ça, donc ça c'est pour le crucifié lui-même. Généralement, de quoi mourait le crucifié? Ben, il mourait généralement d'une insuffisance respiratoire, parce que il faut comprendre, ça c'est très intéressant, parce que on savait pas trop comment on crucifiait les gens, hein. On sait que les Romains avaient développé ça, ils l'avaient d'ailleurs emprunté de d'autres, c'est pas eux qui avaient inventé la crucifixion, hein. C'était une méthode de mise à mort qui s'est très largement répandue dans le bassin européen, mais bon, les Romains l'avaient récupéré, c'est un supplice qui est épouvantable. Et quand les gens étaient placés sur la croix, ben il y a un coup que t'es cloué sur la croix, là, faut que tu respires, et pour te soulever, pour respirer, tu dois te soulever. Mais comment tu fais pour te soulever quand tes points d'appui sont les clous que t'as à l'intérieur des mains et les clous que t'as à l'intérieur des pieds?
Ça doit t'arriver.
Quand tu te soulèves par la force du clou qui est planté dans ta main ou qui est planté dans tes pieds. Comme les clous à cette époque-là étaient faits par des forgerons, t'allais pas acheter une caisse de 1000 clous chez Renault Dépôt, là. Donc les clous étaient faits par des forgerons, un à un. On a souvent pensé qu'on devait utiliser un minimum de clous pour crucifier un condamné. Dans le cas de Jésus, par exemple, on le voit généralement représenté avec 3 clous. Hein, un clou dans chaque main et un clou pour les 2 pieds. Il faut savoir qu'en 1968, on a trouvé dans la région de Jérusalem des os, les os d'un crucifié. Et là, on s'est aperçu qu'on avait tort. En fait, les Romains étaient économes sur les clous, mais pas tant que ça. Et les clous qu'on a trouvés montrent que, mais ça se peut qu'on variait d'un individu à un autre, on le sait pas, là. Mais les clous qu'on a trouvés montrent que le crucifié en question avait probablement des clous dans chaque main, mais un clou dans chaque pied, et que les pieds étaient remontés le long du poteau et cloués par la cheville. Donc, on plaçait le pied sur le bord du poteau, puis on rentrait un clou à la hauteur de la cheville. Donc, les pieds étaient de part et d'autre du poteau, et non pas placés l'un sur l'autre, comme on le voit généralement.
Comme
dans
une position vélo, un peu, là.
Voilà, un peu. C'est, okay. Voilà. Il chevauche littéralement sa croix, là.
Okay.
Donc, les os qu'on a trouvés en 1968, c'était intéressant parce qu'on avait les os, et le clou était encore dans les os. Donc, on a vu à ce moment-là que, et même le bout du clou était plié. Donc, dire qu'on l'a planté probablement dans une plaque en bois sur le bord du poteau, puis on a tordu le clou de l'autre côté. Donc, les ossements nous montrent que, contrairement à ce que l'on voit de l'imagerie populaire, le crucifié était mis en croix avec 4 clous, un clou dans chaque main et un clou dans chaque cheville. Mais, encore une fois, c'est un détail, mais ça, cette histoire-là, l'histoire nous apprend ça. Ensuite, où se trouve le Golgotha? Ça, c'est assez compliqué. Et quel est le chemin qu'a entrepris Jésus? On a cru longtemps que l'endroit où Jésus avait été condamné, hein, parce que bon, on l'amène devant Pilate, etc. Donc, il y a tout un débat autour de ça. Puis on dit, ben voilà, il est dans le prétoire. Et là, le prétoire, ben, on croyait que le prétoire était plus proche du temple d'Hérode. Pour les gens qui ont déjà visité Jérusalem, le temple d'Hérode, c'est l'endroit où se trouve le mur des Lamentations à Jérusalem. Donc, on croit croyait, il y avait un endroit qu'on appelait la forteresse Antonia. On croyait que c'était là qu'était le palais de Pilate et que c'est là que Jésus avait été condamné. Mais on a découvert au cours des 20 ou 30 dernières années que la forteresse Antonia était plutôt l'écurie de Pilate. L'endroit où se trouvait le prétoire de Pilate, c'était plutôt, pour ceux qui ont visité Jérusalem, dès que vous entrez dans Jérusalem par la porte de Jaffa, à votre droite, immédiatement en entrant derrière la muraille, il y a ce qu'on appelle la tour de David. Et on croit aujourd'hui que la tour de David, c'est l'ancien temple de Pilate. Ça veut donc dire que c'est là que Jésus aurait été amené, c'est là qu'il aurait été condamné. Et si les données historiques sont bonnes, alors là, quand vous visitez, ça n'a pas d'importance, hein, mais il faut quand même remettre simplement le mythe versus la religion, versus l'histoire. Quand les gens visitent, quand les pèlerins visitent Jérusalem, on fait un trajet à travers Jérusalem, qui s'appelle la Via Dolorosa, hein, la rue de la douleur. Et là, c'est un grand chemin qui nous amène de l'ancien temple d'Hérode jusqu'au Golgotha. Mais en fait, si Jésus était condamné dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tour de David, il a emprunté un tout autre chemin. Tu comprends?
Ah,
donc,
oui?
Les pèlerins suivent un chemin qui n'est pas celui...
C'est
le chemin touristique, mais c'est probablement pas ce chemin-là qu'a emprunté Jésus si effectivement le palais de Pilate était la tour de David qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ensuite, où se trouve le Golgotha? Ah, ça, c'est un peu complexe. Hein? Le Golgotha veut dire le mont du crâne ou le rocher du crâne. Donc là, la seule chose qu'on a une certitude, c'est que ce rocher-là devait être à l'extérieur des murailles. Et quand on visite Jérusalem aujourd'hui, il faut se rappeler que les murailles, hein, on entre par des portes, un peu comme à Québec. Hein. Il y a la muraille qui entoure la vieille ville de Québec. On entre par la porte Saint-Jean, par exemple.
Oui.
Bon, dans le cas de Jérusalem, c'est un peu la même chose. On a une muraille, puis on a des portes qui ont différents noms. Mais ces murailles-là ne sont pas les murailles originales de la ville. Les murailles que l'on voit aujourd'hui ont été construites aux alentours du 12e siècle à peu près. Donc la ville a été détruite, reconstruite, détruite encore et reconstruite.
Radio X Files.
Radio X.
Le retour de Radio X.
C'est blindé ce que je vais vous dire. Ma source me dit que Samanal est tout à fait contre le tramway. Toi aussi, t'as une source?
Oui.
OK. Je sais pas si on a la même source, mais en tout cas, hein, d'habitude, on se les dit pas nos sources, puis...
Ça va rester de même.
Voilà.
On va en pause.
Le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 15h.
Radio X.
Présenté par Donnacona Ford. Qui te donne le prix employé? Donnacona Ford. Jusqu'à 10 000 $ de rabais sur un F-150. Donnacona Ford. Jusqu'à 27 % de plus pour ton échange. Donnacona Ford.
Capsule.
Radio X.
Supporte ses partenaires.
Chez Exterminateur Québec, nos techniciens qualifiés possèdent une expertise rigoureuse leur permettant de vous débarrasser efficacement des araignées, fourmis charpentières, perce-oreilles, punaises de lit et autres insectes, souris et autres rongeurs. Pour plus d'infos, exterminateurquebec.ca. Vous cherchez un ordinateur performant à petit prix? Pensez à PC en vrac et leur promo du retour à l'école. Près de 500 ordinateurs en inventaire avec des rabais jusqu'à 35 %. À Sainte-Foy, Saint-Nicolas et Charlebourg, PC en vrac, votre équipement informatique à prix imbattable. Vous êtes propriétaire d'une maison et vous avez des dettes à taux élevés comme des cartes de crédit, prêts personnels ou des retards quelconques? GMOT Cabinet en courtage hypothécaire pourrait vous permettre de rassembler vos dettes et économiser jusqu'à 1 200 $ par mois sur vos paiements. GMOT.ca 418-655-3686. Les 17 et 18 août, Barbecue Québec fête le 10e anniversaire de sa boutique de Québec avec une foule d'activités pour toute la famille. Et en prime, découvrez leur nouveau restaurant, la Maison de la Fumée Barbecue Québec. 3000 rue Einstein, voisin de la SAQ Dépôt.
Les prix employés Ford sont en cours. Et qui de mieux pour vous en parler que Kevin, un véritable employé chez Ford?
Vous payez ce que nous payons pour un Ford 2024.
Wow!
Ouais, désolé, je me suis un peu emporté.
Non, non, c'est correct, continue.
Vous payez ce que nous payons pour l'F-150, la famille Bronco, la Mackie et plus encore.
Essayez ça avec un peu moins d'intensité pour voir.
C'est aussi simple que ça.
Bon, en ce moment, profitez des prix employés Ford sur presque tous les véhicules Ford 2024. Pour tous les détails, visitez votre détaillant Ford du Québec ou Ford.ca.
Salut, c'est Carbo. Pour garder ta voiture propre longtemps, c'est le meilleur moment de faire traiter à l'Anti-Rouille Crown, offert avec 20 $ de rabais. Visite nos 12 adresses partout dans la grande région de Québec, en Beauce, en Mauricie et au centre du Québec, et profite de l'Anti-Rouille numéro 1 au Canada. Détails au crown.com.
Pour un vaste inventaire de produits disponibles, pas de temps à perdre. Obtenez les meilleurs deals en ville avec
Aluminium Perron. Besoin de murs d'intimité d'aluminium, de marches en aluminium ou de clôture pour votre piscine? Chez Aluminium Perron, on a de tout pour créer un espace intime, sécuritaire et confortable dans votre cour. Achetez et installez vos rampes, clôtures, poteaux et descentes en aluminium garanties 20 ans et économisez gros. Pour des matériaux de qualité et une expertise sans égale, c'est Aluminium Perron. Entrepreneur ou particulier, rendez-vous au aluminiumperron.com.
Viens faire un tour chez Monsieur le Fumeux à Saint-Flavien. En vedette sur place, les fumoirs aux granules GMG nouvelle génération ainsi que les fameuses plancha Pit Boss et Louisiana Grill. Monsieur le Fumeux, c'est l'incontournable pour les vrais tripeux de barbecue. Et n'oublie pas de nous suivre sur Facebook pour ne rien manquer.
Problème de bébite? 781-9798.
Exterminateur Québec, une solution permanente pour régler vos ennuis avec les rongeurs et les insectes. Exterminateur Québec, une équipe avec plus de 10 ans d'expérience.
Quand il y a de la bébite, 781-9798.
Soumission gratuite.
Maison Adam.
Profitez de la meilleure qualité sonore pour vos films et musiques préférées avec Maison Adam. Pour un temps limité, bénéficiez d'un rabais de 20% sur les performants haut-parleurs de la série 600 S3 du renommé fabricant Bowers & Wilkins. Pour des conseils personnalisés et un service d'installation sur mesure, fiez-vous aux experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Grande vente porte ouverte chez Escale VR Beaumont. Liquidation des 2022 et 2023 en bas du prix coûtant. Rabais jusqu'à 50 000 $. Financement sur place à partir de 6,95%. De jeudi à dimanche seulement. Escale VR Beaumont, sortie 337 de l'autoroute 20, Beaumont.
Corsair Microbrasserie, fier partenaire de vos festivals. Retrouvez la Cosmic Rancher et la Redneck au Rodéo Mont-Sainte-Anne du 22 au 25 août. Délectez-vous aussi de nos breuvages au Festibière de Québec et à la foire bière, bouffe et culture de Princeville. En nous, ça sent le party pendant le mois des festivals pour Corsair Microbrasserie. CorsairMicro.ca.
Faites partie de la famille Kia Beauport. Offrez-vous le Telluride 2024, un VUS qui allie style, confort et performance. Disponible en inventaire, prêt pour la livraison. Passez-nous voir, rue Seigneurial à Beauport.
Kia Beauport!
Chez Sport Expert et Atmosphère, sautez dans la rentrée avec l'événement Achetez et obtenez. Jusqu'au 27 août, obtenez 25 $ en carte promo à l'achat de 100 $ de nouveautés des grandes marques. Détails en magasin ou au sportexpert.ca.
Profitez des rabais de fin de saison chez Club Piscine au mois d'août. Ou attendre l'année prochaine et payer plus cher. Être installé rapidement et se baigner tout le reste du mois d'août. Être sur la liste d'attente en 2025. Obtenir gratuitement le service de fermeture et ouverture pendant notre promotion du mois d'août ou être poigné pour le faire tout seul la saison prochaine. Le choix est clair. Attendez pas pour l'achat de votre piscine hors terre. Seulement chez Club Piscine Québec, Sainte-Foy et Lévis.
Pour un achat de véhicule en toute confiance, c'est Gestion Lacoteau, une entreprise familiale qui existe depuis plus de 30 ans. Ouvert même le samedi. GestionLacoteau.com.
GestionLacoteau.com.
Tôle TSC. Un toit en tôle, c'est une paix d'esprit assurée pour plusieurs années. Pour un temps limité, la boîte de bardeaux d'acier Wakefield Bridge de 50 pieds carrés est à seulement $145.45. Les tôles TSC pour un recouvrement à votre mesure. TôleTSC.ca.
Un party de bureau réussi, ça se planifie. Alors réservez tôt avec Concert Plus et profitez de rabais et promotions sur votre événement. Pour un party qui marquera les esprits à la hauteur de vos espérances, Concert Plus, fournisseur officiel de succès. 624-73-86-concertplus.com.
T'es prêt à aller chercher ta licence d'entrepreneur en construction, mais t'as réalisé qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver? Pour faire les bons choix, assure-toi de parler à l'APCHQ. C'est une association sans but lucratif reconnue par la Régie du bâtiment qui rassemble plus de 20 000 entrepreneurs au Québec. On s'entend que t'es pas mal sûr d'y trouver les meilleurs conseils selon ton parcours et ton profil. Attends plus et appelle-les. Nos experts t'offrent leurs services gratuitement. Visite le site web apchq.com pour les détails, apchq.com.
BPM Sport s'échappe, il file avec la rondelle. BPM Sport est en feu. Il pénètre la zone adverse, fait une passe à...
Il fait une passe à qui, non?
BPM Sport recherche un vrai marqueur. La vente et le développement des affaires, ça te connaît? T'aimes le sport, t'es à l'aise avec les gens et tu veux faire partie d'une équipe gagnante? Deviens conseiller publicitaire pour BPM Sport 100.9, la station des sports à Québec. Ça t'intéresse? Écris-nous à cv@commercialbpmsport.ca, cv@commercialbpmsport avec un s.ca.
Tu veux un meilleur emploi? Avec l'AEC en génie civil du Cégep Limoilou, fais des tests de qualité de béton et d'asphalte en lab ou sur les chantiers. Une formation de 8 mois et un emploi dès la fin des cours. Inscris-toi pour commencer en septembre. cégeplimoilou.ca/formation-continue.
Grande vente porte ouverte chez Escalvaire Beaumont. Liquidation des 2022 et 2023 en bas du prix coûtant, rabais jusqu'à 50 000 $. Financement sur place à partir de 6,95%. De jeudi à dimanche seulement. Escalvaire Beaumont, sortie 337 de l'autoroute 20, Beaumont.
Pour sortir, se divertir, manger et trouver tout, vraiment tout, c'est au marché Jean Talon Charlebourg que ça se passe. Plus de 400 exposants sur place, beau temps, mauvais temps, pour vous servir. Marché Jean Talon Charlebourg, l'incontournable destination pour les vacances estivales. Ouvert 7 jours.
Le mois d'août commence et tu penses déjà aux frais occasionnés par le retour à l'école? Le plus vieux aura son appartement près du cégep et t'avais pas pensé qu'il aurait besoin d'une connexion Internet? Pas de panique. Oricom a la solution parfaite. Internet fibre 1 gigabit à seulement $59.95 par mois. C'est rapide, super fiable et vraiment pas cher. Pour un service client exceptionnel, recommandé, meilleur choix, protégez-vous, choisis les spécialistes de l'Internet. Visite oricom.ca, tu le regretteras pas. oricom.ca.
Salut, c'est Carbo. C'est le meilleur moment pour faire traiter la voiture à l'Anti-Rouille Crown. Avec la chaleur d'été, le produit pénètre mieux pour des résultats optimaux. Et pour un temps limité, tu épargnes 20 $ sur le traitement numéro 1 au Canada. Visite lecrown.com pour trouver le centre le plus proche.
Capsule.
Radio X.
Supporte ses partenaires.
Le mois d'août commence et tu penses déjà aux frais occasionnés par le retour à l'école. Pas de panique, Oricom a la solution parfaite. Internet fibre 1 gigabit à seulement $59.95 par mois. Pour un service client exceptionnel, choisis les spécialistes de l'Internet, oricom.ca. Tu le regretteras pas. oricom.ca. Le Rodéo Mont-Saint-Anne présenté par Ranch Brands, c'est un rendez-vous du 22 au 25 août. Un rodéo urbain au cœur de Sainte-Anne-de-Beaupré et un spectacle de Matt Lang. Billets au rodeomsa.com. Longue vie au cowboy. Les deux rives du fleuve s'illuminent au rythme des grands feux Loto-Québec tous les mardis.